Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, deux invités dans notre studio pour parler des élections de la Chambre d'agriculture. Il y a donc Yannick Becker, co-porte-parole de la Confédération paysanne pour la région PACA.
Co-porte-parole pour le 04 et porte-parole pour la région PACA.
D'accord. Et donc Manfred Thiollier, qui est membre du CA de la Confédération paysanne 04.
Voilà, et retraité.
Et retraité. Alors, cette Confédération paysanne, donc, si on peut rappeler ce que c'est vraiment.
La Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole à vocation générale. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe de tous les agriculteurs. Et du coup, on est aussi représentatif. Donc, ça, c'est un des enjeux dont on va parler pour les élections professionnelles. C'est qu'on siège officiellement dans pas mal de commissions qui permettent d'orienter les politiques agricoles. Et on a trois élus à la Chambre d'agriculture depuis maintenant 12 ans. Bon, avant, on était représentés, mais moi, par exemple, je suis élu depuis deux mandats à la Chambre d'agriculture.
Deux mandats, ça fait combien de...
Deux fois six ans.
Deux fois six
ans. On vote tous les six ans.
D'accord. Pourquoi il est important de voter et qui vote ?
Pourquoi c'est important de voter ? C'est parce que, entre autres, plus il y a de paysans qui votent, plus la parole syndicale va être prise en compte par les gouvernements. Et ensuite, suivant pour qui on vote et quel syndicat arrive en tête, et ben en fait, c'est une élection à double enjeu. Il y a un enjeu de représentation et d'audience, de mesure d'audience par des gouvernements et des politiques, que ce soit régionales, territoriales ou nationaux. Et donc, ils vont regarder un peu le poids et l'écoute des agriculteurs des différents projets. Donc, on a effectivement des projets assez différents entre les autres syndicats et la Confédération paysanne. Et le deuxième enjeu, c'est celui qui est beaucoup plus local, c'est celui de qui va siéger à la Chambre d'agriculture et qui va en assurer la gestion courante et les orientations pour le département et pour les agriculteurs du département.
C'est vrai que si on voit ça de manière très générale, on voit avec le réchauffement climatique tout un tas de problèmes qui vont arriver de plus en plus. On sait que dans la population, il y a pratiquement 70% des gens qui adhèrent aux idées de la Confédération paysanne, qui sentent très bien qu'il y a un modèle agricole qui est complètement mortifère aujourd'hui. Et donc, du coup, il faut absolument changer les pratiques et surtout revenir à des pratiques beaucoup plus saines. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, il y a tellement de choses à faire et depuis des années et des années, rien n'avance dans le bon sens, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu très important que ces idées de la Confédération paysanne soient portées par le maximum de paysans qui vont voter. Là, il faut absolument qu'ils aillent voter d'ailleurs, parce que c'est un moyen de pouvoir peser très fortement sur la Chambre d'agriculture, notamment sur le 04. Quoi. Les pratiques du 04 sont quand même un peu éloignées de celles des grands céréaliers du nord de la France. Quoi.
Alors est-ce qu'on peut justement donner des exemples ? De pratiques
En fait, dans les Alpes-de-Haute-Provence, par la nature même du territoire, mais aussi l'histoire, on a des fermes qui sont encore pour la plupart à taille humaine. Et on a aussi beaucoup trouvé des solutions de commercialisation, de transformation qui permettent de garder la valeur ajoutée sur le territoire et sur nos fermes. Ce qui explique que finalement, la crise agricole qui a explosé il y a un an, qui est partie du sud-ouest et puis qui s'est étalée dans toute la France, nous ici, on l'a ressenti, mais quand même beaucoup moins, parce que en fait, dans les fermes, ça allait plutôt pas mal. Donc nous, c'est ce qu'on défend, c'est-à-dire c'est de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire c'est une agriculture qui a du sens et qui produit de la valeur sur le territoire et sur les fermes. C'est une agriculture qui n'est pas soumise, et donc des agriculteurs et des agricultrices, des paysans et des paysannes qui ne sont pas soumis aux règles du marché, qui ne sont pas soumis à des diktats. Alors bien souvent nos collègues dénoncent les normes, mais en fait les plus grosses contraintes qu'on peut vivre sur une ferme quand on est en filière, c'est des contraintes commerciales de l'amont et de l'aval. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, le poids des charges. Les charges, c'est quand même bien ce qu'on achète, c'est-à-dire l'engrais, les pesticides, le gasoil, le matériel. Donc ça, nous, on milite pour un retour autant que possible de l'autonomie des paysans et de l'autonomie décisionnelle aussi, c'est-à-dire de pouvoir s'emparer des outils et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, il y a aussi les contraintes de l'aval, c'est-à-dire comment on vend. Et en fait, là, c'est clairement les prédateurs de valeur. Pour ceux qui vendent en filière, ils le savent très bien. Hein. Ils vendent leurs céréales à 3 francs 6 sous ou leurs légumes à 3 francs 6 sous quand ça part en filière. Et puis, on les retrouve en supermarché ou en coopérative à la revente, où ça a été multiplié par 10. On se demande où est passée la valeur. Ben, en fait, elle est passée sur les marchés financiers la plupart du temps, ou elle est passée dans des grosses structures agroalimentaires. Donc nous, ce qu'on défend, les Alpes-de-Haute-Provence, c'est un département principalement agricole. Donc on s'est déjà pas mal tourné sur le bassin de population d'Aix-Marseille. Donc les circuits courts, ils ont toute leur importance et on peut encore les développer, à mon avis, c'est-à-dire la vente directe et la vente locale. Mais on défend maintenant un peu l'idée de filière courte, c'est-à-dire de pouvoir s'associer ou se regrouper pour aller se tourner de manière un peu plus massive vers la population d'Aix-Marseille. Et d'avoir une organisation aussi qui nous évite à chacun de descendre toutes les semaines avec notre petit fourgon en bas à Aix ou à Marseille.
Donc favoriser le circuit court, c'est pas propre aux Alpes de Haute-Provence, j'imagine.
Bah non, c'est effectivement une solution qui a été mise en œuvre quasiment dans toute la France, pour autant qu'on ait accès à un bassin de population, parce qu'il y a des départements où ce n'est pas tout à fait le cas. La Creuse ou la Marne, c'est un peu plus difficile pour faire du circuit court. C'est pour ça que je parle de filière courte. Et puis il y a aussi, effectivement, alors ça c'est la solution dont beaucoup de paysans s'emparent, et nous c'est ce qu'on défend pour avoir de la valeur sur la ferme, donc dégager un revenu. Mais après, pour les fermes qui sont en filière, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, 80% de l'alimentation passe par les grandes et moyennes surfaces. Les citoyens, ils vont acheter principalement en grande surface. Et donc c'est sur cet aspect-là, donc là on est sur le volet plutôt national, où il faut vraiment agir pour redonner de la valeur aux matières agricoles. Et donc, grosso modo, moi je dirais l'exclure du marché international, parce que c'est lui qui dicte les prix en ce moment, et revenir sur un marché national qui puisse rémunérer les agriculteurs à un niveau suffisant pour qu'ils aient un revenu. Et en plus, le fait d'avoir un revenu sur la ferme, c'est une condition sine qua non pour pouvoir mettre en œuvre la transition écologique qui est nécessaire, pour pouvoir mettre en œuvre l'adaptation. Donc effectivement, on demande aussi, est-ce qu'il y a une réorientation de la PAC sur ces aspects-là, parce qu'on ne le fera pas sans pouvoir être aidé. D'ailleurs, on le sait dans toute la société, si on nous paye pour mettre une pompe à chaleur, eh ben, on la mettra. Si on n'a pas d'argent pour la mettre, eh ben, d'argent public, eh ben, on ne le mettra pas. C'est pareil pour les voitures électriques, etc. Donc dans l'agriculture, il faut orienter les financements publics sur la transition agricole. Il faut pouvoir nous accompagner, mais il faut aussi qu'on ait un revenu. C'est beaucoup plus facile si on a un revenu. C'est l'explication de la crise agricole de février dernier, parce que si la plupart des paysans demandent à avoir de l'azote et des pesticides, c'est pas pour rien, c'est pas par plaisir qu'ils le mettent et qu'ils dépensent de l'argent pour ça. C'est juste que c'est la dernière garantie de volume, et on peut agir que sur le volume en ce moment pour avoir un revenu, parce qu'on ne peut plus agir sur les prix et on peut plus agir sur les charges.
C'est vrai qu'une étude a montré que pratiquement 80% des agriculteurs sur le plan national, aimeraient changer de modèle. Et ils sont coincés par tout un tas de contraintes terribles, quoi, financières, la plupart du temps. Et ils sont obligés de mettre des pesticides qui leur coûtent de plus en plus cher, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une course à l'agrandissement des propriétés agricoles, avec des salariés. Enfin, on rentre dans un système avec la maltraitance animale. Enfin, il y a tout un tas de... Et nous, on n'est absolument pas sur ce modèle-là. On essaye de prôner un modèle beaucoup plus sain et beaucoup plus proche de l'homme. Alors évidemment, entre les petits paysans d'autrefois et puis les énormes structures là qui sont en train de se monter un peu partout, avec la ferme des 1000 vaches par exemple, ou tout un tas d'autres, des porcheries gigantesques. Et en fait, ces gens qui font ce genre de choses, les paysans qui travaillent sur ces exploitations-là sont malheureux la plupart du temps, parce qu'ils font un travail qui n'est pas du tout valorisant, non seulement financièrement, mais en tous les cas par rapport à une éthique de vie, tout simplement. Et nous, on a la chance dans le 04 quand même d'avoir encore plein de petites structures, plein de petits paysans, et qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils transforment. On voit les chevriers, par exemple, avec leur fromage, et ils arrivent à s'en sortir avec des petites surfaces. Et voilà, on aimerait continuer dans ce domaine-là.
Tout ce qui est production animale, en plus, c'est peut-être maintenant amené à disparaître.
Il y a vraiment un gros débat. En fait, il faut éclaircir le débat.
Par rapport
effectivement, il faut... c'est un objectif et puis c'est une tendance de réduire la consommation de viande. Mais en fait, il y a quand même énormément de marge, parce qu'en fait, la plupart de la viande, elle est produite de manière industrielle et concentrationnaire dans l'ouest de la France, en Bretagne, etc., voire elle est importée du Brésil. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est redéployer l'élevage, redonner de la valeur aux éleveurs et aux bêtes d'élevage. La preuve en est, c'est que par exemple, pour la production de viande ovine, on est déficitaire à 60%. Pourtant, ce n'est pas pour autant que les éleveurs de brebis arrivent à gagner leur vie. Pourquoi ? Parce qu'on a des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et que pour la Nouvelle-Zélande, les brebis, c'est un sous-produit de la laine. Donc ça nous arrive ici à des prix défiant toute concurrence. Donc les Français, ils vont continuer à manger de la viande, hein, mais ils vont manger de la viande pas chère, parce que le signal prix, c'est quand même bien le premier signal qu'on va écouter les citoyens quand ils sont un peu serrés à la ceinture. Et que du coup, ben, en fait, c'est pas l'élevage pastoral qu'il faut cibler, parce que là-haut, on fera pas les carottes. Donc il faut utiliser les surfaces pour ce qu'elles sont, et pour aussi tous les apports en histoire, en ruralité, en biodiversité, etc. Donc il faut utiliser les surfaces pour ce qu'elles sont et pas pour autre chose. Et donc s'il faut réduire l'élevage, c'est l'élevage industriel. Voilà. Et si on veut revenir, c'est pas sur, sur la chambre proprement dite et sur qu'est-ce qu'on aimerait
changer
apporter, ou pas.
Oui.
Parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir une chambre dans les Alpes de Provence qui a fonctionné plutôt pas trop mal, en tout cas au niveau démocratique et diffusion d'informations. Donc on peut dire qu'on est en capacité de gérer la chambre, puisqu'on a eu les informations et qu'on était impliqué dans la gestion passée, même si on n'avait pas vraiment le choix parce qu'on était minoritaire en nombre de voix et qu'on n'était pas au bureau. Mais il y a une politique qui répond à des enjeux qui a été mise en œuvre par la Chambre. C'était donc une politique volontariste sur la transmission et l'accompagnement à la transmission des fermes. Ça répond aux statistiques qui disent que dans les 10 ans à venir, il y en a la moitié des agriculteurs qui arriveront à l'âge de la retraite. Donc c'est vraiment important de pouvoir transmettre ces fermes en l'état, c'est-à-dire sans les démembrer pour que ça parte à l'agrandissement, les transmettre pour avoir toujours autant d'agriculteurs. Alors nous, dans le 04, c'est une rareté, on a plus de votants cette année qu'il y a 6 ans, ça veut dire qu'on a installé plus de monde que ce qui est parti. Mais quand même, bien souvent, les nouveaux installés s'installent sur des petites surfaces, donc il y a toujours, dans les fermes qui s'arrêtent, il y a toujours une partie qui part à l'agrandissement, et on assiste quand même, malgré tout, dans le 04, à une concentration des surfaces, même si c'est encore pas forcément des sociétés, on en a quelques-unes de sociétés qui se sont installées et qui commencent à un peu accaparer du foncier. Et on a parallèlement beaucoup de candidats à l'installation qui ont du mal pour trouver des surfaces, même petites, pour s'installer en maraîchage. Donc en fait, on va continuer à amplifier l'accompagnement à la transmission, mais pour pouvoir déboucher, là, il y aura vraiment une politique volontariste en matière de foncier, c'est-à-dire de regarder la disposition des terres agricoles et des fermes. Alors une fois qu'elles ont atteint une taille économique suffisante, à ce moment-là, et d'ailleurs c'est encadré par le schéma régional du contrôle des structures, donc qui oriente un peu le foncier, pour pouvoir libérer des surfaces pour les candidats à l'installation, qui est important. C'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur un nombre élevé d'agriculteurs. Là, en ce moment, en France, on ne représente plus qu'1,6% de la population. Alors que c'est quand même le nœud essentiel de la démocratie et de la vie citoyenne, l'agriculture. On fournit de la nourriture, on utilise le plus grand espace, c'est ce qui est le plus visible. Et on a énormément de politiques publiques qui se penchent dessus, parce qu'on n'a pas que la politique agricole, et la politique de santé publique, et la politique de l'eau, la politique de l'environnement.
L'énergie.
Maintenant, la politique énergétique, parce que c'est quand même aussi le dernier Eldorado pour aller faire des sous. Donc les carrières, mais on a aussi les panneaux photovoltaïques qu'on veut utiliser, les terres agricoles pour les mettre dessus. Donc nous on va batailler, et on a déjà bataillé à la Chambre et ailleurs pour préserver ces terres agricoles pour leur valeur nourricière.
Ouais, sur le photovoltaïque, c'est vraiment un enjeu invraisemblable en ce moment, parce que faisant partie de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il y a une commission tous les mois qui analyse, mais alors de plus en plus, des dossiers de création donc de parcs photovoltaïques, ou au moins, et ce qui est moins embêtant, mais des installations de toitures photovoltaïques sur les bâtiments existants, ou parfois à créer. Et en faisant miroiter ceux qui vendent ces panneaux, en tous les cas, tous ces entrepreneurs, que ce soit Total Energy ou autre, manifestement, ils sont là pour s'enrichir et faire de l'argent. Donc ils proposent des bâtiments gratuits. Évidemment, ça peut être intéressant pour le paysan qui va avoir un bâtiment pratiquement pour rien. Et on voit arriver de plus en plus en commission ce genre de projet. Et tout simplement, je sais qu'en les trois derniers mois de l'année 2024, il y a eu 2,8 hectares de panneaux photovoltaïques en toiture.
Sur
les fermes, alors à droite, à gauche, etc. Et quelquefois les projets qui ne sont pas du tout justifiés. Donc voilà, il faut analyser tout ça. Et c'est vrai que, à la limite, nous, on n'est pas contre du tout les installations en toiture, au contraire, parce que ça permet de créer de l'énergie, effectivement. Ce qui est compliqué, c'est les parcs photovoltaïques. Et les communes, notamment, sont énormément sollicitées par donc des boîtes importantes qui viennent quelquefois du Canada, hein, pour leur dire, si vous avez des terres, ben allez-y, proposez-nous la possibilité de mettre 6, 7, 10 hectares de panneaux photovoltaïques et ça va vous rapporter. Voilà, donc on n'a pas envie d'avoir un département couvert de panneaux photovoltaïques, quoi. Ça, c'est aussi un vrai problème.
Ça nourrit pas son homme.
Le problème, c'est qu'on n'est pas tous propriétaires.
C'est ce que j'allais dire, voilà.
Et qu'en plus, la plupart... Alors du coup, on dit que ça ne nourrit pas son homme, mais quand même, il y a une concurrence accrue parce que les sociétés proposent entre 1 000 et 2 000 euros l'hectare par an. Alors, sachant qu'un fermage, c'est plutôt c'est maximum 200 euros l'hectare par an. Donc, effectivement, et on n'est pas tous propriétaires. Donc, après, le fermier se retrouve fragilisé. Et même par rapport aux hangars qui peuvent avoir leur utilité, aux hangars photovoltaïques, il faut être propriétaire. Et le problème se pose aussi, ça n'a pas du tout envisagé dans la loi d'accélération des productions des énergies renouvelables, c'est comment on fait pour la transmission. Parce qu'on augmente de la valeur, les contrats sont passés avec une certaine personne, etc. Et on a déjà des retours où lorsque, par exemple, le paysan était en fermage et qu'il y a une transmission, et ben, la part qui est en fermage, le propriétaire dit ben non, je ne transmets pas, je ne fais pas de cession de bail au nouvel installé. Parce que, alors, je peux lui faire un prêt à usage s'il veut les exploiter en attendant, mais je garde ça sous le coude parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a un attrait. Et le pire, c'est que c'est tout un business qui est fondé sur de l'argent public, puisque c'est des prix garantis pour l'électricité, et qu'en fait, les modèles économiques qui sont basés sur ces prix garantis qui coûtent à tout un chacun, au gouvernement, à l'État, mais en fait, c'est quand même nous qui finançons ça. Alors si à la base, on est quand même prioritairement pour des énergies renouvelables, on n'est pas pour des énergies renouvelables pour faire n'importe quoi. Moi, je disais souvent, si c'est pour alimenter l'hôpital à côté, moi, je suis le premier à lever la main pour autant que je sois propriétaire, pour mettre des panneaux sur mon champ. Mais si c'est pour alimenter la Porsche électrique ou le camion électrique, si c'est pour ne pas changer de modèle, ce qui est affiché clairement, eh ben non. À ce moment-là, on dit non, il faut arrêter la folie. Et là, je pense qu'on en vient vraiment à un enjeu primordial là, pour cette échéance-là. On va dire que les précédentes, on avait peut-être du temps. C'était important, mais on avait du temps. Là, maintenant, c'est vraiment important d'envoyer un signal fort au gouvernement et aux dirigeants locaux des politiques agricoles. Il faut changer de modèle. Il faut vraiment changer de modèle. Changer de façon de voir. Il faut sortir de cette compétitivité. Alors, c'est dans toutes les bouches. Mais en fait, à la compétition de tous contre tous, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et si on s'aligne avec, par exemple, des élevages de 30 000 bêtes au Brésil, on a beau avoir des clauses miroirs, on ne gagnera jamais. Et à la fin, en France, on se retrouvera... Il y aura toujours de l'agriculture, ça c'est certain. Mais il n'y aura plus d'agriculteurs. Parce qu'on peut faire de l'agriculture sans agriculteurs. Ça s'appelle des sociétés commerciales. Bolloré a déjà racheté 600 hectares de vignes dans le Var. Il n'y a plus d'agriculteurs, il y a des salariés agricoles, oui, mais il n'y a plus d'agriculteurs. Donc c'est vraiment un enjeu phénoménal. En plus, sachant qu'on peut aussi travailler pour stocker du carbone, on peut travailler pour gérer les flux hydrauliques, donc l'eau, la stocker dans les sols, etc. Donc il y a vraiment un enjeu en biodiversité, sachant qu'on parle de notre outil de travail. La nature, c'est notre outil de travail. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir des clichés libéraux qu'on nous propose. Attaquer les normes ou attaquer l'administration et l'OFB, c'est une ineptie. Les normes nous protègent la plupart, même si des fois elles sont un peu chiantes. Il faut nous donner les moyens de pouvoir les appliquer. Et l'administration travaille à notre service. Là, on se démarque clairement des autres listes et des autres syndicats.
C'est vrai, quand on apprend que l'agence, l'ADEME par exemple, risque d'être supprimée, c'est dramatique parce qu'ils font des études a priori objectives sur tout ce qui se passe et tous ces contrôles, en tous les cas, et toutes ces études sont importantes. Et évidemment, les diminuer, ça va encore faire le jeu des sociétés dont on parlait tout à l'heure. Là. C'est vrai.
Mais en fait, c'est étonnant parce que si on est d'accord avec les autres syndicats pour... on était contre les accords de libre-échange, on a manifesté avec eux, on a fait proposer des motions à la Chambre qui ont été votées à l'unanimité. Mais je ne comprends pas dans les manifestations comment on peut, d'une même voix, être contre les accords de libre-échange et contre les normes, sachant que les accords de libre-échange visent à éradiquer les normes. Donc en fait, c'est un peu incompréhensible. Et finalement, je trouve qu'il y a un peu un jeu de dupes, par exemple, aussi quand les autres syndicats visent à l'administration et que le gouvernement dit « Ah bah ouais, finalement, on va les supprimer, ces administrations. » Mais c'est l'objectif d'un gouvernement libéral de supprimer les administrations qui contraignent la libre concurrence et qui contraignent le marché. Donc finalement, c'est un peu un jeu de dupes de râler et d'aller désigner, montrer du doigt des administrations qui sont essentielles pour le bon fonctionnement et l'équilibre des forces dans le paysage agricole. Alors là, bon, on dérive plutôt sur des impératifs démocratiques, mais ça n'empêche que dans l'agriculture, la démocratie est importante. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'agriculteurs. Nous, on vise, ce qu'on défend, c'est 1 million de paysans. On en a moins de 400 000 et on en veut 1 million. Donc, ceci pour bien rappeler que dans les 400 000 qu'il y a, il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque. Donc, tout le monde se sente concerné et inclus dans notre politique, dans ce qu'on voudrait mener, y compris ceux qui se sentent stigmatisés par l'agribashing parce qu'ils mettent des pesticides ou parce qu'ils ont des grandes surfaces. Ceux-là aussi, on va les accompagner, on va les prendre en compte. Et du coup, ben voilà, il faut multiplier par 3 le nombre d'agriculteurs. Parce que plus la démocratie a une base importante, ben plus elle peut avancer. Quoi. Alors, juste préciser, ça je donnerai la parole à Manfred, c'est qu'il y a là, pour ces élections, il y a plusieurs collèges. Donc, il y a le collège exploitant agricole et assimilé, donc conjoint collaborateur, etc. C'est celui qui a le plus de sièges à la Chambre. À la Chambre, il y a 33 sièges. Le collège exploitant agricole a 18 sièges, avec une répartition passablement inégalitaire des sièges parce qu'il y a la moitié des sièges part à la liste arrivée en tête et le reste, donc les 9 sièges restants, sont répartis à la proportionnelle. Ce qui explique que nous, avec 36%, on n'avait que 3 sièges. Mais après, du coup, la Confédération Paysanne propose une liste aussi pour le collège retraité et pour le collège propriétaire. Sachant qu'après, il y a encore plein d'autres collèges sur coopératives, banques, assurances, etc. où là, on ne peut pas s'y aligner puisque c'est phagocyté par la FNSEA. Donc Manfred est tête de liste, ou alors est sur la liste des retraités.
Oui, il y a la liste retraités, donc il y a un siège, hein, mais en même temps c'est important de voter, parce que il y a beaucoup de choses à faire avancer, notamment la retraite, les pensions de retraite sont vraiment très très basses par rapport à ce qui est nécessaire pour vivre aujourd'hui, puisque le SMIC est à 1425 euros, et aujourd'hui une retraite agricole est inférieure à 1000 euros. Et en plus, il y a un décalage avec si on est une femme ou un homme.
Donc, toujours, oui.
Toujours. Mmh. Ça n'a toujours pas changé. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis donc, dans le collège retraité, il y a aussi ce qui est important, c'est de travailler, on en parlait tout à l'heure par rapport aux fermes, à la transmission. Ça c'est quand même très, très, très fondamental parce qu'il y a beaucoup de retraités qui vont arriver dans les quelques années qui viennent et qui vont donc transmettre. Et c'est vrai que plus les bâtiments sont importants, et notamment s'il y a ces installations photovoltaïques, plus ça va être compliqué pour les jeunes de s'installer. Donc il y a tous ces problèmes à essayer de régler.
Le collège propriétaire qui est difficile à réunir parce qu'en fait il y a un corps électoral. Alors bon, pour les exploitants agricoles c'est assez facile, même si les cotisants solidaires et les étrangers orieux n'ont pas le droit de vote. Mais le collège retraité c'est aussi facile. Par contre le collège propriétaire, je sais pas, c'est un peu compliqué. Enfin, je crois qu'ils se... Donc les votants, le corps électoral, ils doivent se signaler plus ou moins. Et donc en fait, là je crois qu'il y a 300 votants. C'est un peu léger, je pense qu'il y a un peu plus que 300 propriétaires. Mais bon, ça n'empêche que, voilà, c'est important, si vous êtes propriétaire et que vous avez reçu le matériel de vote, c'est que vous faites partie du collège et que, voilà, il faut voter. Ça peut toujours faire une voix de plus en session chambre. Et comme je le disais, l'aspect du foncier agricole est vraiment important. Et donc c'est important d'avoir cette vision aussi de la part des propriétaires de foncier agricole.
Le vote se fait en ligne ?
Alors, il peut se faire par courrier. Il y a tout ce qu'il faut dans l'enveloppe que vous avez reçue, enfin que chacun a reçue chez lui. Et il peut se faire en ligne, sachant que c'est le vote en ligne qui prime. Donc, si vous êtes trompé, si vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a tout un protocole de signature et de choses à ne faire ou ne pas faire, si vous n'êtes pas sûr, eh ben, voilà, vous pouvez doubler avec un vote en ligne. Comme ça, vous êtes sûr. Même si moi, j'avoue que j'aime bien. Ça fait 2 fois que je fais le dépouillement. Et voilà, j'aime bien le concret et le matériel. C'est assez intéressant, même au niveau humain. On a des bons échanges.
Donc, il y a jusqu'au 31 janvier pour voter.
Voilà, sauf erreur. Et les résultats seront proclamés, je crois, le 6 février. Ouais. Voilà. Et ensuite, y aura toute la mise en place, la session d'installation, etc. Et les réactions diverses et variées. Donc, j'espère qu'on aura une bonne surprise.
Oui.
Voilà. Je me méfie des faux espoirs, mais voilà, je pense qu'on, quand même la tendance actuelle, si vraiment les gens prennent conscience et les agriculteurs prennent conscience des enjeux, c'est assez clair qu'on est à peu près les seuls cohérents depuis longtemps et à proposer une solution alternative. Parce qu'en fait, là, la crise, elle est quand même le résultat d'une cogestion qui dure depuis plus de 50 ans et d'une orientation libérale. Donc, FNSEAJA, c'est eux qui nous servent cette crise agricole et la coordination rurale, ils sont encore plus que libéraux. Donc, franchement, les solutions ne sont pas forcément à la hauteur.
Yannick Becker, merci. Et Manfred Thiollier, merci à vous.
C'est nous qui te remercions.
Donc, j'espère que le message sera passé auprès des auditeurs. Bonne chance pour ces élections.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus, en tout cas.
Merci. Au revoir. On n'a rien oublié
On pourrait faire 3 ou 4 émissions sur le sujet pour développer tous les enjeux, mais on n'a pas parlé de la prédation sur laquelle on est vraiment impliqué, on n'a pas parlé de la gestion de l'eau. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut...
La gestion de l'eau, c'est un point important aussi.
Oui, surtout qu'on s'est rendu compte que jusqu'à il y a peu de temps, on se disait « Oh là là, il va falloir qu'on gère la pénurie ». Et en fait, maintenant, on s'en rend compte qu'il va falloir aussi gérer l'excès d'eau. Et donc, c'est pas rien. Les deux vont ensemble, mais c'est pas rien. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire des bassines.
Voilà. Bon, vous reviendrez nous en parler.
Mais oui, en fait, c'est pas la fin de toutes les élections. Et je me dis que ça peut être intéressant de continuer à faire des émissions à thème.
Pour sensibiliser, c'est vrai.
Voilà.
Vous êtes en lien avec France Nature Environnement ? Parce qu'il y a aussi...
On travaille, parfois on est raccord, parfois il faut vraiment qu'on leur explique les enjeux professionnels. Et voilà, sur le photovoltaïque, sur l'eau et sur la prédation principalement, il y a nécessité à discuter et à expliquer les enjeux.
Eh bien, on fera une émission, on vous réunira.
Pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne journée,
au revoir.
Au revoir. Oups.